Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du format Réaction. Je souhaite vous remercier les barons parce que vous avez beaucoup apprécié le premier épisode sur les antisports, donc on va continuer ce format très prometteur. Vous savez comment ça se passe, vous voyez une vidéo qui attire votre attention, vous me l'envoyez sur Instagram, le Doc Baron, je l'analyse en vidéo et je poste sur YouTube. Cette fois-ci, c'est un baron de la communauté qui m'a envoyé deux vidéos Combini sur des femmes qui ne souhaitent pas avoir des enfants. Alors Combini, on connaît, c'est comme le port salut, on n'est jamais déçu parce que c'est marqué dessus, on a à boire et à manger. On va regarder tout ceci, donc on a deux vidéos à analyser en tout qui font à peu près 3-4 minutes. Donc je vais commencer par la première, puis ensuite la seconde. On démarre de suite.
Avant 68, tout le monde pensait qu'on pouvait être femme complètement seulement après avoir été mère. J'ai été accompagnée toute mon enfance par l'idée que je serais mère. Par exemple, je faisais beaucoup de montagnes, j'avais des sacs à dos lourds et ma mère me disait: Oh là 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 là, ne porte pas dans le dos parce que tu vas te faire mal au dos et après tu pourras pas porter un enfant. Enfin, c'est bien.
Alors ça, c'est une première idée qui me vient à l'esprit, c'est que depuis que j'ai commencé ce format réaction, j'ai regardé donc des antisports et cette fois-ci des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et ce qui me frappe, c'est le fait que systématiquement, ces individus-là sont marqués par ce qu'ils appellent la plupart du temps des injonctions. Donc dans la première vidéo, c'était le fait eh bien, d'inciter à faire du sport. Donc quand un proche vous demande ben, tu devrais faire du sport, ça te ferait du bien. Et cette fois-ci, cette dame donc semble avoir été particulièrement marquée dans sa jeunesse par le fait que sa mère lui disait de faire attention à son dos parce que le but c'était de faire attention à sa santé pour un jour qu'elle puisse avoir des enfants. Sauf qu'en fait, c'est tout à fait normal, puisque j'imagine qu'elle a grandi dans les années 50, 60, et que donc, par conséquent, à cette époque-là, la très grande majorité des femmes avaient des enfants, et donc, c'était absolument pas choquant d'entendre ce type de discours, parce que sa mère pensait que elle aurait forcément des enfants plus tard, tant c'était inscrit dans la norme de la société, puisque la société française à cette époque-là était beaucoup plus traditionnelle. C'était la famille nucléaire traditionnelle avec le père, la mère et les enfants. Donc en fait, il s'agirait de grandir un peu à partir du moment où on vit en société et que l'on décide par rapport à ses choix de vie d'aller à contre-courant de la norme, on va forcément avoir des réactions. Et ces réactions, elles sont parfois négatives, mais on s'en fout. À partir du moment où vous assumez vos choix, c'est pas un problème. Donc il faut arrêter de pleurer sur son sort quand quelqu'un va vous dire, par exemple, un discours qui va peut-être vous impacter parce que votre choix de vie est différent de celui de la norme. C'est normal. À partir du moment où on est à contre-courant, il va de facto y avoir une réaction. Faut juste s'en foutre. Donc, ce qui me marque, en fait, avec la plupart de ces vidéos que je regarde et que vous m'envoyez, c'est que systématiquement, il y a une sorte de traumatisme originel par rapport à une injonction qui a été perçue de manière disproportionnée, alors qu'en fait, ce sont des phrases totalement anodine.
C'est B68 qui a tout changé. J'ai enfin compris la nécessité de penser par soi-même, de refuser d'obéir à des injonctions et de découvrir vers quoi je me sentais attirée. Ce n'était pas par la maternité. Dans les
Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, elle utilise le terme d'injonction et elle parle de mai 68. Il y a tout un tas d'auteurs qui ont écrit sur mai 68. Il y a notamment Patrick Buisson, qu'il repose en paix d'ailleurs. Il faudra parler du travail de Patrick Buisson. Et il y a des auteurs que l'on retrouve à gauche, comme par exemple Christopher Lasch ou même Michel Kluskar, qui ont beaucoup dénoncé certaines dérives de mai 68. À droite, on a également Roger Scruton, mais bon, j'ai l'habitude de vous en parler. Et en fait, ce qui est marrant dans son discours, c'est que en réalité, elle a remplacé des injonctions par d'autres. C'est-à-dire, elle a remplacé un discours dominant, c'est-à-dire le fait de fonder une famille traditionnelle, par un discours qui se place juste à contre-courant, par volonté d'opposition. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un cheminement de pensée qui est totalement libre ou elle a juste voulu se construire par opposition? Si elle a juste voulu se construire par opposition juste pour pas faire comme la norme, en réalité, elle n'est pas vraiment libre dans ses choix parce qu'elle a remplacé des injonctions traditionnelles par des injonctions libertaires. Et mai 68, c'est ça, c'est la pensée libertaire qui s'est d'ailleurs alliée avec le capitalisme pour créer ce qu'on appelle les superconsommateurs. Alors les auteurs sont pas d'accord sur cette notion parce que pour Christopher Lasch par exemple, le but c'était de détruire la famille nucléaire traditionnelle pour créer des individus qui seraient animés par le narcissisme et par une forme d'égoïsme, parce que ça ferait d'eux des très bons consommateurs, alors que des auteurs comme Pasolini pensaient qu'au contraire, il fallait qu'il y ait une famille traditionnelle pour qu'il y ait cette logique de consommation, parce qu'on consommait plus à l'intérieur d'une famille que seul, qu'en étant un individu célibataire. Donc on voit que tous les auteurs ne pensent pas la même chose, mais mai 68, c'est cette volonté de table rase, et c'est cette idée aussi de libération sexuelle, par le biais notamment de la pilule, les femmes peuvent gérer leur contraception, etc., etc. Donc elle a voulu jouir sans entrave, et l'une des entraves, c'est la famille traditionnelle. Et donc, il a fallu faire sauter le verrou.
Il y avait, à cette époque-là, beaucoup de violence. Les child free étaient perçus comme des infanticides potentiels. Une personne qui avait entendu parler de moi s'est étonnée. Comment ? Ah oui, vous n'avez pas d'enfant. Oh, que c'est triste. C'est comme Véronique Courgeot. Alors, on se demande si certains humains sont vraiment des êtres humains. Et Véronique Courgeot est une femme qui a congelé les trois nouveau-nés.
Donc là, elle exprime le fait que son choix de vie a pu entraîner un certain nombre de critiques et que parfois ces critiques étaient totalement injustifiées. Il ne peut pas y avoir d'infanticide à partir du moment où il n'y a pas d'enfant. Donc là, on voit que la comparaison est plus que douteuse. Et ça, c'est le problème de certains conservateurs ou certains traditionalistes, c'est le fait que parfois ils peuvent devenir des caricatures d'eux-mêmes et ça donne du grain à moudre à ce type de mouvement parce que la comparaison est totalement stupide, disproportionnée et ça donne l'impression que certains conservateurs résonnent comme des tambours. Alors que pour moi, le conservatisme, c'est justement cette capacité à raisonner, à prendre en compte toutes les informations et à avoir un discours qui est le plus pragmatique possible. Et donc, ce type de discours où on va estimer qu'une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, eh bien, elle commet un infanticide, c'est totalement stupide. On peut ne pas valider, moi je valide pas, je pense qu'on s'accomplit en tant que femme et en tant qu'homme à partir du moment où on devient père ou mère, ça reste mon avis, je suis libre de l'exprimer, comme elle est libre d'exprimer le fait qu'elle ne veut pas avoir d'enfant pour tout un tas de raisons, mais en fait, il ne faut pas tomber dans la comparaison crasse et délirante, parce que la seule personne que l'on va humilier, c'est pas l'individu en face de nous, c'est nous-mêmes.
Vis-à-vis des hommes, je peux dire qu'il y a eu deux réactions. D'une part, ceux qui étaient mal à l'aise à la rencontre d'une child free, parce que cette situation les mettait en face d'une limite à l'affirmation de leur virilité. Par cette femme-là, ils ne pourraient pas avoir un héritier. Et ça, ça les limitait. Derrière ça, il y a une forme d'angoisse de castration. Et puis, l'autre réaction des hommes a été plutôt une grande ouverture parce qu'ils pensaient que les femmes qui avaient fait ce choix de non-maternité avaient une sensualité vive et ma foi, ils attendaient de la complicité.
Alors là, c'est intéressant. En fait, elle nous parle des réactions de deux types d'hommes différents par rapport donc au fait qu'elle ne voulait pas avoir d'enfants. Les premiers, c'était ceux qui étaient mal à l'aise à cette idée et c'est tout à fait logique. Vous êtes un homme, vous voulez avoir des enfants, vous rencontrez une femme, vous voulez pas être ami avec cette dernière, vous la voulez potentiellement comme partenaire de vie et donc vous avez des critères. En tant qu'individu, tout le monde a des critères plus ou moins élevés, ça dépend de notre rapport aux autres et du rapport que l'on entretient aussi avec soi-même. Et pour certains hommes, c'est mon cas par exemple, eh bien on veut tellement devenir père que c'est un critère qui a son importance dans le choix de la partenaire. Et donc forcément, il y a des hommes qui vont être mal à l'aise quand ils vont rencontrer des femmes qui ne veulent pas eh bien, avoir d'enfants parce que pour eux c'est tellement important que c'est pas négociable. Donc forcément, ça écarte le choix de facto. Ensuite, elle parle d'un autre type d'homme et moi je les appelle les phallocrates. C'est un terme qui est employé aussi par Michel Kluskar dans son ouvrage « Le capitalisme de la séduction » et il s'agit d'hommes qui pensent avec leur bite, hein, faut dire les termes. Et ce qui est très drôle, c'est que la plupart de ces femmes pensent qu'avec mai 68 et la libération sexuelle, elles ont gagné en liberté, qu'elles se sont affranchies du patriarcat, alors qu'en réalité, pas du tout. Elles sont tombées dans les mains des phallocrates. En réalité, elles ont remplacé ce qu'elles imaginaient être une forme de domination par une autre. Elles avaient peur d'être dominées dans le cadre du foyer, alors qu'au final, elles ont été dominées par les phallocrates, qui voulaient juste jouir eux aussi sans entrave, et qui étaient très contents de l'arrivée de la pilule, parce qu'ils pouvaient lier l'utile à l'agréable. Et désormais, les phallocrates étaient tranquilles, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient coucher à droite à gauche, sans forcément que la femme en question tombe enceinte. Donc en réalité, elles ont remplacé une forme de domination par une autre, si on peut appeler ça vraiment une domination. Mais du moins, il ne faut pas imaginer que la libération sexuelle et le fait de coucher avec plein de partenaires, ça veut dire qu'on est forcément libre. En réalité, on est soumis à nos pulsions, on est soumis à nos bas instincts, qui est le fait de multiplier les partenaires. D'ailleurs, j'ai eu une conversation extrêmement drôle avec l'un de mes oncles à ce propos, que je salue, Christian, qui m'expliquait que donc les années 70-80, c'était la libération sexuelle, tout le monde couchait à tout va, et d'ailleurs beaucoup plus qu'aujourd'hui, les chiffres le démontrent, mais que tout s'est arrêté à partir du moment où il y a eu le sida, parce qu'il y a eu une grande inquiétude dans la population libertaire par rapport au sida, mais avant ça, en fait, ça couchait à tire-larigot, et ce qui a permis justement cette période dorée, c'est mai 68 et la libération sexuelle. Donc en fait, ce qu'elle voulait en son âme et conscience, c'était de pouvoir jouir sans entrave, de pouvoir coucher à droite et à gauche, et elle a raison, hein, c'est pas un problème, hein, si ça lui procurait du plaisir et du bonheur, grand bien lui fasse, même si j'ai tendance à dire qu'il y a le problème micro et le problème macro, c'est-à-dire que d'un point de vue micro, on peut dire ben, c'est pas grave qu'une femme ne souhaite pas avoir d'enfant, parce que c'est son choix personnel, et moi, fondamentalement, ça change pas ma vie, mais par contre, à terme, ça peut provoquer des bouleversements civilisationnels, parce que si toutes les femmes demain décident de ne plus avoir d'enfants, eh bien, on va avoir des problèmes majeurs. Donc, faut quand même se rendre compte que certains phénomènes de société ont une dimension micro et une dimension macro, et que les deux sont très souvent liés. En fait, tout dépend du nombre et de la tendance.
Et les child-free, elles savent qu'elles ne sont pas seules. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et des femmes reçoivent des tas de remarques mais qui étaient les mêmes hein, dans les années 70, qu'elles sont des monstres, elles sont des égoïstes et comment font-elles dans leur vieillesse sans enfants. Je pense qu'on ne fait pas d'enfants pour se constituer un bâton de vieillesse, sinon bah, ça ne vaut pas le coup. Parlez-moi d'amour.
Bon là, elle parle du fait qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Je vois pas en quoi, puisqu'il n'y a pas de politique de natalité. Personne n'oblige aujourd'hui les femmes à avoir des enfants. Et si elle parle des injonctions de la société, ben là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut assumer ses choix. Elle le fait, c'est très bien, elle en parle dans un média, personne ne l'empêche de tenir ce type de discours. Mais de l'autre côté, il faut aussi accepter la critique, c'est-à-dire qu'on a encore le droit de trouver ça bizarre ou étrange. Alors j'en ai fini avec la première vidéo, maintenant on va passer à la seconde avec une militante qui est plus jeune, toujours sur Combini.
Depuis que j'ai 15 ans, je dis, moi je serai pas maman, parce que ça m'intéresse pas, j'ai rien en moi qui m'appelle vers la maternité. Aujourd'hui, il y a un petit problème, quelque chose qui m'agace un peu, c'est le fait que quand on parle du non-désir d'enfant, on présente ça sous le fait que les gens ne voudraient plus faire d'enfants pour des questions écologiques, pour l'éco-anxiété, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un double problème dans le sens où, ben, en général, la plupart des personnes qui veulent pas d'enfants, juste ne désirent pas d'enfants et il n'y a pas d'explication. Et dire que ce serait pour l'écologie, c'est comme si on avait enfin trouvé une raison valable de dire que, ah, ça y est, ces gens ne sont pas complètement fous. Juste petit rappel, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il peut y avoir la peur de tomber enceinte ou d'accoucher. Donc ça s'appelle la tocophobie. Il peut y avoir des raisons psychologiques par exemple, des raisons financières, des raisons familiales, enfin juste plein de choses différentes qui font qu'on veut pas d'enfants.
Alors là, elle aborde plusieurs idées, notamment le fait que la plupart des médias abordent seulement cette problématique des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sous l'angle de la question écolo. Alors c'est faux, on l'a vu avec la vidéo précédente, avec la militante plus âgée, puisqu'à aucun moment elle aborde la dimension écolo de sa démarche, et pour avoir lu tout un tas d'articles sur cette question, à la fois en France ou à l'étranger, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, parfois l'argument qui est avancé, c'est l'argument écolo, mais c'est pas systématiquement le cas. D'ailleurs, pour donner mon avis personnel, je pense que la plupart des militants qui avancent l'argument écolo pour justifier la démarche comme quoi ils veulent pas d'enfants, en réalité, ça cache juste le fait qu'ils se sentent pas prêts. Ce sont la plupart du temps des éternels adolescents, ils se sentent pas prêts à devenir père ou mère. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que si tu te sens pas prêt, si tu penses ne pas en être capable, il vaut mieux pas y aller. Et je pense qu'en effet, il y a certaines situations qui sont assez délétères et qui peuvent expliquer pourquoi on ne veut pas avoir d'enfants. Si par exemple, on a grandi dans une famille véritablement dysfonctionnelle et qu'on n'a pas envie de répéter le schéma, ben, il vaut mieux s'abstenir. Et là, par contre, j'adhère totalement. Mais on va pas me sortir de l'idée qu'en fait, aujourd'hui, il y a juste beaucoup de jeunes qui sont animés par une forme d'égoïsme et de narcissisme, qui se sentent des éternels adolescents, qui n'ont pas envie de grandir. Et pour eux, avoir un enfant, c'est un frein par rapport au fait de voyager, de jouir sans entrave. Et ils utilisent juste la carte écolo pour se faire bien voir.
Un autre problème qui, je pense, n'est pas encore vraiment mis en avant, mais qui risque de le devenir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de médias mainstream, donc d'informations, on va dire, globales, qui partagent des articles sur le fait que si on arrête de faire des enfants ou qu'on en fait moins, on pourrait potentiellement réduire le problème écologique. Ce genre de discours, il est repris en fait par des médias qui sont des médias d'extrême droite. Le risque, c'est que des personnalités politiques potentiellement d'extrême droite disent il faudrait proposer une régulation de la natalité pour que seulement certaines personnes puissent faire des enfants. C'est la porte ouverte à des règles qui peuvent être sexistes, racistes, validistes, grossophobes, etc. On ne doit pas réduire le nombre de personnes.
Alors là, je viens de me prendre une rafale de 11.43. Je m'attendais pas du tout à voir la fameuse carte « c'est à cause de l'extrême droite ». C'est-à-dire qu'il y a une partie des militants de la Grande Déraison, même une très grande partie, qui utilisent systématiquement l'extrême droite comme bouc émissaire de tout et n'importe quoi. Le réchauffement climatique, c'est l'extrême droite. L'Amazonie qui brûle, c'est l'extrême droite. Le fait que j'arrive pas à bander, c'est l'extrême droite. Bref, à chaque fois, l'extrême droite n'est jamais loin et c'est pénible. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je ne vois pas de quel type de politique elle parle. Si elle parle de Marine Le Stylo ou de Éric Zemmour, je vois pas quelles sont les idées dans leur programme qui vont à l'encontre de ce qu'elle avance. Que éventuellement à l'extrême droite ou dans la droite traditionnelle, on retrouve des discours qui visent à dire qu'en effet, les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, ça peut être un problème pour des questions civilisationnelles, je l'entends bien, mais là, elle fait des parallèles qui me semblent être très douteux, et j'invite les barons de la communauté à m'aiguiller dans les commentaires, parce que je ne vois absolument pas de quoi elle parle. Je vois pas quelles sont les politiques ou les idées qui ont été mises en avant par Marine Le Pen ou Éric Zemmour en ce qui concerne cette question-là. Donc, aiguillez-moi dans les commentaires, car je suis très curieux de le savoir.
On ne doit pas réduire le nombre de personnes, mais on doit juste changer nos modes de vie. Et c'est pas du tout la même chose. Quand on m'interview, c'est assez marrant, entre guillemets, parce qu'il y a certains discours qui sont vraiment coupés au montage. Dans le couple hétérosexuel, aujourd'hui, l'arrivée d'un enfant, c'est potentiellement l'exacerbation des inégalités. En France, il y a plus de 75% des emplois à temps partiel qui sont pris par des femmes, notamment pour s'occuper de leurs enfants. Dans le couple, c'est celui qui gagne le plus qui va garder son emploi à temps plein. Et c'est les hommes parce qu'ils sont mieux payés, parce qu'il y a une discrimination dans l'entreprise envers les femmes. Ça précarise des femmes qui touchent une plus petite retraite, etc. Et ça, je trouve que c'est pas du tout assez mis en avant dans les médias, encore une fois, quand on parle de la question de la maternité, parce que c'est un vrai enjeu féministe, en fait.
Bon, alors là, je l'attendais, c'est le quintet gagnant. Fallait que ça parle à un moment donné de l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. Bon, ça a été débunké maintes et maintes fois, notamment par le bon Raptor, parce que les calculs ne sont pas bons. En fait, on prend tous les métiers possibles et inimaginables et on compare, alors qu'on sait très bien que ça ne prend pas en compte tout un tas de paramètres, notamment la pénibilité, etc., les primes de risque. Et en fait, le véritable écart est totalement ridicule. Mais ce que je veux souligner aussi, c'est la problématique de la négociation.
Quand on se met en couple, c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde tout de suite. Ça mérite d'avoir une conversation claire sur ce sujet. On peut considérer, par exemple, de faire un chemin ensemble, même s'il y a quelqu'un qui veut un enfant, quelqu'un d'autre qui n'en veut pas, et se dire qu'à un moment donné, bah, peut-être que les envies vont vraiment être trop différentes et qu'il faudra se séparer, tant que on respecte l'autre, parce qu'en fait, s'il n'y a pas à forcer quelqu'un soit à faire un enfant, soit à ne pas en faire, c'est important quand même de le rappeler.
Alors là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense que quand on est dans un couple, il faut dire les choses. Il faut être dans cette logique de communication et dès le début. Ça sert à rien de cacher les problèmes dans le brouillard, ils vont finir par vous éclater à la gueule deux fois plus gros, c'est ce que dit le bon Peterson. Donc il faut dire les choses très tôt. Si vous avez envie d'avoir un enfant, il faut en parler avec votre partenaire dès le départ et inversement. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise et les moutons sont bien gardés. Par contre, ce que je trouve assez risible, et elle en parle dans la vidéo, c'est le fait de dire « oui, on va faire un chemin ensemble » alors qu'on sait très bien qu'il y a des différences majeures. Si vous êtes en couple avec une personne et que vous savez très bien qu'à partir d'un moment, il va y avoir une grosse dissonance par rapport à des choix de vie, pourquoi vous êtes en couple avec elle? Arrêtez de vous mettre en couple pour être en couple. Allez avec des personnes qui ont vraiment la même vision que vous, les mêmes valeurs, et comme ça, vous allez créer des histoires sur le long terme, parce que ça ne sert à rien de se lancer dans des histoires à court terme pour, au final, se réveiller un an ou deux après et se dire « Ah ben merde, j'ai perdu mon temps », parce que vous n'aviez pas les mêmes valeurs.
Alors, les remarques qui viennent le plus quand tu dis que tu veux pas d'enfant, il y a quand même cet imaginaire qui est là depuis des millénaires sur le don de soi en tant que femme et le fait de se sacrifier corps et âme pour un enfant, sa famille, etc. Donc, dès qu'on... on se retire de ça, on est vraiment perçu comme des personnes égoïstes. Bah peut-être qu'en fait tous les choix qu'on fait sont un peu égoïstes, dans le sens où faire un enfant, c'est aussi un désir égoïste. On fait un enfant pour soi, on fait pas un enfant pour lui ou pour elle, parce que cet enfant n'a rien demandé. Moi, on m'a déjà dit qu'il fallait absolument que j'aille voir un psy.
Alors c'est intéressant ce qu'elle dit, ça me fait penser à la saison 1 de True Detective. C'est une série que j'adore et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Et il y a un personnage qui s'appelle Rust Cole, qui est un policier joué par le giga Chad Matthew McConaughey. Je sais pas si je prononce bien son nom, j'en ai à foutre, et en gros c'est un policier nihiliste qui a vraiment une vision de l'humanité, enfin il est très misanthrope, et il explique à un moment donné que pour lui c'est très égoïste de faire un enfant parce qu'on extirpe l'enfant du néant alors qu'il était bien pour le faire atterrir dans un monde qui est dangereux, où il peut lui arriver plein de choses alors qu'il ne l'a pas demandé. Mais en fait, de toute façon, je pense fondamentalement que l'être humain est égoïste par nature, donc que vous vouliez faire des enfants ou non, dans tous les cas, votre choix, vu que c'est vous-même qui le faites, eh bien, il est égoïste. En fait, quoi que vous fassiez, on vous traitera d'égoïste. Si vous en faites un, on vous dira « Oui, mais vous avez extirpé un être du néant pour l'amener sur cette terre avec tout ce que ça implique alors qu'il ne l'a pas demandé. » Et si vous en faites pas, on vous dira « Ben, vous pensez à vous-même, vous êtes égoïste. » Moi, je pense fondamentalement que l'être humain est égoïste par nature. C'est Machiavel qui le dit notamment. Ça fait partie de nous. Mais j'aurais tendance quand même à dire qu'on est moins égoïste quand on veut avoir des enfants, parce que ça implique tellement de sacrifices sur le long terme. Avoir des enfants, c'est vraiment un choix de vie et une forme de sacrifice au quotidien pour tout un tas de raisons, qu'à la fin, on est moins égoïste. Même si on a fait ce choix originel de choisir d'avoir des enfants alors que l'enfant n'a rien demandé, eh bien, il y a tellement de preuves après comme quoi on n'est pas égoïste quand on s'occupe bien de ses enfants, que ça annule complètement l'acte originel qui serait de base égoïste.
Moi, on m'a déjà dit qu'il fallait absolument que j'aille voir un psy pour gérer un traumatisme, parce que si je veux pas d'enfant, c'est tellement anormal que ça doit venir d'un trauma.
Alors là, c'est extraordinaire. Elle se contredit en 3 minutes de vidéo, puisque au début de son entretien, elle explique que parfois, on peut décider de ne pas avoir d'enfant par rapport à des traumatismes, par rapport donc à des problèmes qui peuvent potentiellement relever de la psychologie, des problèmes psy, pour au final dire à la fin que on n'est pas malade, on n'a pas de problème si on ne veut pas avoir d'enfant. Faut accorder, c'est violent.
Il y a aussi l'idée qu'on va forcément le regretter. Et moi, ce que je réponds aussi à ça, c'est qu'en fait, tous les choix de vie, toutes les décisions qu'on prend qui sont irréversibles, elles sont sujettes au regret, tout simplement. Il est possible qu'à 50 ans, 55 ans, j'éprouve à un moment donné du regret. Mais en fait, éprouver du regret, c'est pas grave. Ce serait peut-être une espèce de nostalgie en me disant « Ah bah moi, j'ai jamais connu ça. J'aurais jamais connu une relation filiale avec un enfant. » Bah, c'est ok, en fait.
Bah là, je suis assez d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites vos choix de vie. Vous pouvez pas savoir où vos chemins de vie vont vous amener. Donc c'est une sorte de pari que vous faites sur l'avenir. Parfois vous êtes gagnant, parfois vous vous faites baiser, ben, c'est comme ça. Après, il y en a qui peuvent dire il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Chacun a sa vision des choses. Mais je dirais qu'à partir du moment où pendant une grande majorité de votre vie, vous n'avez pas voulu avoir d'enfant, même si vous le regrettez plus tard, ben, si dans la majorité de votre existence, c'était un souhait qui était profond, ben, au final, la balance est plutôt positive pour vous.
Et les hommes reçoivent certaines injonctions aussi à la paternité, c'est souvent sur la filiation, à savoir le fait de transmettre son nom de famille, donc son patrimoine, etc. Et donc là, pareil, on est vraiment dans l'historique du patriarche qui doit transmettre des choses et qui se situe un petit peu en haut de la structure familiale. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes ressorts, en fait, et sur les mêmes enjeux concernant le fait de faire des enfants ou non.
Bon, allez, j'en ai marre de ces conneries. Moi, j'ai jamais reçu d'injonction. J'ai toujours voulu être père. Je le serai un jour, je l'espère du moins, si je suis pas stérile, là je serai baisé, mais à aucun moment j'ai reçu des injonctions de la société ou du patriarcat par rapport à ce désir que j'ai au fond de moi de devenir père un jour, donc je me sens pas concerné par ce qu'elle dit à la fin. Donc dans ce cas-là, puisqu'elle est dans cette logique qu'elle souhaite que les autres respectent le fait qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, il faut aussi respecter le fait que certains veulent en avoir et que ça ne relève pas forcément d'une injonction de la société ou d'une forme d'obligation. Personne ne m'oblige à devenir père un jour. Si je veux pas devenir père un jour, personne m'en tiendra rigueur. Et puis voilà, les moutons sont bien gardés. Bon les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.